Le 11 et 12 juin 2024, à l'occasion du colloque inter-ENS intitulé « L'égalité des chances, la diversité, l'ouverture », Cadécole est allé tendre son micro aux différents intervenantes et intervenants de ses deux premières journées à l'ENS de Lyon.
Agnès Banzantène, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes intervenue pendant ce colloque, notamment pour proposer une intervention sur les mécanismes compensatoires dans cet accès dans les filières et les établissements d'élite de l'enseignement supérieur. Et puis vous avez mis au jour un petit peu deux modèles, celui de la compétition d'un côté et celui du parrainage de l'autre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces deux modèles ?
Oui, c'est un article assez ancien maintenant, puisqu'il date de 1960, d'un sociologue américain, Ralph Turner. Et donc, lui, il s'était inspiré d'une comparaison entre le modèle américain et le modèle anglais pour distinguer deux voies d'ascension sociale par l'école, ce qu'il appelait la compétition, et en anglais « open contest », et le parrainage « sponsorship ». Donc, il disait, dans le modèle de la compétition, effectivement, et ce qui est central, c'est que le statut est conquis par les personnes, et la métaphore de cela, c'est un peu la course sportive, donc tout le monde sur la même ligne de départ, et donc il y a une course qui est celle du système scolaire, et dans le modèle du sponsorship, au contraire, le statut est conféré aux personnes par les élites déjà en place. On a un modèle qui est plutôt celui du club, dans lequel on opère par cooptation.
Et du coup, il y a ceux qui sont éliminés de cette course et ceux qui sont malgré tout inclus dans le système.
Alors, effectivement, dans le modèle initial de Turner, il y avait l'idée que, et ce qu'il appelait compétition, il appelait ça compétition ouverte. Et l'idée, c'était quand même que même s'il y avait des mécanismes de compétition, des épreuves, donc des examens, des tests, etc., malgré tout, les gens restaient assez longtemps dans le système. Et donc, effectivement, les élites elles-mêmes adhéraient au système parce qu'il y avait une insécurité. Sécurité de qui serait le gagnant à la fin, puisqu'il avait une quantité d'épreuves au fur et à mesure, mais sans être éjecté du système. Mais des chercheurs qui sont venus après Turner, notamment un autre collègue anglais, Jim Rosenbaum, lui, il parlait plutôt de l'idée de distinguer une compétition plus inclusive de ce qu'il appelle une logique de tournoi, dans laquelle à chaque compétition à fort enjeu, par exemple, le baccalauréat actuellement en France, il y en a effectivement qui sont admis à concourir au niveau supérieur et ceux qui sont soit totalement éjectés du système, soit qui sont dérivés vers des voies des niveaux inférieurs. Mais c'est vrai que le modèle le plus exclusif est celui du parrainage dans lequel on sélectionne les élites assez tôt, notamment dans le système scolaire, par ce qu'on appelle en anglais du tracking, c'est-à-dire toutes les voies qui permettent de faire de la différenciation dans le système. Donc, ça peut être des établissements différents, des filières, et même aujourd'hui, si on pense au système actuel, beaucoup des classes à options qui déterminent des parcours différents au sein du système d'enseignement.
Et du coup, vous avez aussi beaucoup travaillé sur Sciences Po et les conventions d'éducation prioritaire qui ont été mises en place il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Est-ce que c'était l'idée de passer d'un modèle à un autre quelque part, de passer cette compétition au parrainage ? Est-ce que ça correspond un petit peu à ce changement de modèle ? Et après, on pourra voir si ça a eu cet effet ou un effet positif.
Oui, quelque chose que je n'ai pas évoqué dans ma présentation, mais qui est important aussi, c'est de voir dans quel contexte s'est mis en place cette politique. Et une des raisons, ce n'est pas la seule, il y a un contexte politique, aussi des émeutes des banlieues, il fallait faire quelque chose.
On est au début des années 2000. Hein.
Oui, voilà, on est au début des années 2000. Mais il y a aussi un contexte interne, et notamment des syndicats d'étudiants de l'UNEF à l'intérieur des Sciences Po, qui avaient montré à quel point l'examen d'entrée à Sciences Po n'était pas méritocratique.
Notamment la culture générale.
En termes notamment les épreuves d'histoire, etc., qui est des cultures générales, qui nécessitent, pour parler comme Pierre Bourdieu, beaucoup de capital culturel. Et là, effectivement, on voyait qu'il y avait une très forte proportion d'enfants de milieux favorisés qui avaient des meilleurs résultats à ces épreuves. Donc ça a été un des moteurs. Et donc l'idée a été, dans la réflexion interne, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme une épreuve qui soit moins discriminante ? Ça a été très débattu dans le contexte français, puisqu'on a décidé de faire cette épreuve qui est de préparer un dossier de presse dans le lycée d'origine, dans un certain nombre de lycées avec lesquels Sciences Po a établi un partenariat. Et L'idée que la préparation de ces dossiers de presse, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans le système d'enseignement, était une épreuve moins discriminante et qui allait motiver les élèves et qui avait un lien avec Sciences Po, qui est très tourné sur l'actualité dans son programme d'enseignement. Et donc, on a pris cette épreuve comme un premier critère d'admissibilité et après un entretien plus proche, on dira, des entretiens qu'avaient déjà les écoles de management pour accéder donc dans leurs établissements. Et donc, effectivement, l'idée, c'était d'ouvrir un tout petit peu la définition du mérite en acceptant des élèves qui venaient des lycées qui n'étaient pas les lycées traditionnels des recrutements. À cette époque-là, plus qu'aujourd'hui, Sciences Po recrutait vraiment beaucoup dans des lycées du centre de Paris, même si dans les années 90, on avait créé la possibilité pour les élèves qui avaient mention très bien de venir à Sciences Po, et ça a ouvert un peu le recrutement en province, pour le dire comme ça, à niveau national, mais c'était quand même encore assez limité. Et donc, effectivement, il avait une réflexion interne de comment élargir la définition du mérite, de sorte à pouvoir diversifier la composition sociale, et sans le dire, mais c'était quand même toujours là, implicite, latent, la composition ethno-raciale également du public des Sciences Po.
Alors, on est 20 ans plus tard. Oui. Est-ce que les effets qui étaient programmés il y a 20 ans, est-ce qu'on peut les constater, ou est-ce que, voilà, il y a quand même toujours des barrières symboliques, des représentations qui font que cette ouverture, finalement, n'a pas vraiment lieu? Et puis, la question qui va avec, c'est les élèves qui sont accueillis à Sciences Po. Est-ce que, voilà, ils vivent de la même manière leur scolarité?
Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord un problème qui est un problème, on va dire, quasi structurel, c'est-à-dire qu'heureusement qu'en France, les lycées ne sont pas des ghettos. Et donc, même les lycées défavorisés qu'on a pris de l'approche banlieue parisienne ou dans les Outre-mer ou dans des zones rurales sur lesquelles on s'est ouvert plus tardivement, n'ont pas que des élèves des milieux populaires. Et une des conditions qui a été sur lesquels le programme a été créé, c'est qu'on ne sélectionnait pas les élèves. Une fois qu'on avait sélectionné les lycées, tout élève dans le lycée pouvait participer aux ateliers et donc candidater à Sciences Po. Et donc, il y a eu beaucoup, pour utiliser ces termes de sociologie, des passagers clandestins, dans le sens où les études montrent, celles de Marco Oberti, les miennes, etc., ont pu montrer qu'effectivement, il n'y a que 40% à peu près des élèves qui appartiennent vraiment au milieu populaire, si par milieu populaire on entend enfants d'ouvriers et d'employés.
Oui, c'est l'effet qui est non ghetto, voilà, de ces établissements qui ont une forme de mixité,
oui,
aussi,
et donc,
surtout dans les lycées généraux.
Comme il n'y avait pas, par exemple, les critères qu'il fallait que les élèves soient boursiers, même si ces critères sont loin d'être parfaits, mais il n'y avait même pas ces critères. Donc, il y a beaucoup d'élèves
classe moyenne,
classe supérieure, qui ont pu entrer par ces programmes. Et en plus, beaucoup d'élèves qui venaient des milieux assez mixtes, parce qu'on les comptait comme des élèves des classes populaires, parce qu'il y avait un parent qui appartenait aux classes populaires, mais souvent l'autre appartenait aux classes supérieures, aux moyennes, parce qu'on a quand même pas mal de familles hétérogames, où les deux parents n'ont pas la même position. Donc, il y a eu déjà ces problèmes d'accès auxquels s'est rajouté, bien sûr, des effets à la fois d'auto-sélection des élèves, parce que ces ateliers, c'était déjà plus de travail.
Oui, c'est des options en plus.
3 heures de plus, souvent le mercredi après-midi, ou 2 heures de plus, ou le samedi matin. Donc, en plus des heures déjà d'études dans l'établissement. Et aussi des effets de sélection des enseignants, même si en principe les enseignants ne devaient pas sélectionner. Moi, dans les entretiens, dans l'enquête que j'ai menée, on voit bien qu'un certain nombre d'élèves ont été pressentis par leurs enseignants en disant « Toi, tu feras un bon élève pour Sciences Po, etc. » Donc, tout cela s'est conjugué.
On retrouve l'idée du parrainage.
Voilà, il y a toujours ces mécanismes qui jouent, même à des échelles plus réduites et même pour les milieux plus défavorisés. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas n'importe quel élève. Déjà, il fallait qu'il soit dans les filières générales. Parce qu'en principe, on disait que ceux des filières technologiques pouvaient accéder, mais de facto, il n'y en a eu pratiquement pas qui venaient de ces filières. Et puis, on avait exclu les filières professionnelles, bien évidemment. Donc, déjà, il fallait des élèves des milieux qui soient dans des lycées défavorisés, qui aient survécu à la sélection au lycée professionnel, à l'issue de la classe des troisièmes, etc.
Et de seconde pour la classe technologique.
Voilà. Et donc, du coup, on voit que... et en fait, ce que j'ai constaté dans mon enquête, mais ce n'est pas une enquête quantitative, mais qualitativement, c'est-à-dire que les élèves des milieux populaires, finalement, sont des meilleurs élèves que les élèves des classes supérieures qui se trouvent là parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour aller présenter le concours de Sciences Po traditionnel ou aller en classe préparatoire ou aller dans d'autres établissements sélectifs.
Et comment
donc,
se
il y a
passe
un paradoxe.
Coup, bien sûr. Et comment se passe du coup la scolarité pour ces élèves-là dans leur diversité aussi
Alors, très souvent, beaucoup d'élèves que j'ai interrogés décrivent une première année très difficile parce qu'il y a quand même un saut très important. Et comme je le disais dans ma conférence, je suis très soucieuse du fait qu'il y a un différentiel entre les lycées qui est très important parce que les élèves ne sont pas exposés au même curriculum. Même déjà la présence des enseignants, moi, beaucoup des jeunes ayant bénéficié des conventions que j'ai interviewées me disent on a eu un enseignant absent 3 mois, on a eu beaucoup
dans leur lycée.
Et donc, effectivement, ils ne viennent pas du tout. Il y a une élève que j'ai citée d'ailleurs dans la conférence, mais je n'ai pas eu le temps de lire son verbatim, qui disait mais nous, on n'a jamais étudié le contrat social. Donc, le premier jour à Sciences Po, on n'est jamais arrivé à étudier le contrat social dans mon lycée. Beaucoup d'élèves me disaient, nous, on n'a jamais fait une dissertation dans mon lycée. Nous, on répondait à des questions avec 4-5 paragraphes. Et quand j'ai été confrontée, et donc les deux disciplines où les étudiants avaient le plus de difficultés sont l'histoire, qui est une discipline reine à Sciences Po et dans laquelle la dissertation est très importante, les présentations orales. En plus, c'est l'histoire du 19e siècle qu'on fait à Sciences Po et une histoire extrêmement complexe. Et en plus, comme c'est de plus en plus universitaire à un niveau très élevé, moi-même, j'ai assisté aux cours pendant une année. Et en fait, moi-même, j'avais beaucoup de difficultés parce qu'en plus, c'est comment les chercheurs, c'est la littérature internationale, donc, comment les chercheurs anglais voient la situation en France au 19e siècle, les chercheurs allemands, etc.
Donc, c'est... Donc très référencé, du coup.
Oui, et à un niveau vraiment qui suppose déjà que les connaissances de base soient acquises pour qu'on puisse élaborer là-dessus. Et puis l'autre enseignement où ils avaient beaucoup de difficultés, c'est que la plupart venaient naturellement des filières des sciences sociales ou littéraires. Et l'enseignement d'économie, au départ, maintenant il a changé, c'était de la microéconomie au premier semestre, qui est très mathématique, et beaucoup de difficultés dans cette matière. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes racontent une première année très difficile, qu'ils ont redoublé pour un certain nombre, où ils ont dû rattraper des matières, où ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Mais après, souvent, on a analysé ça aux États-Unis et dans d'autres contextes. En fait, les universités d'élite sont assez intrigatrices. C'est-à-dire que c'est très difficile d'entrer, mais une fois qu'on est dedans, on tend moins à décrocher parce qu'il y a plein de mécanismes d'intégration,
des tutorats.
Même si Sciences Po n'a pas, malheureusement, elle a mis en place des tutorats, mais assez tardivement et pas de façon aussi ambitieuse et aussi avec des difficultés qu'on peut comprendre. Est-ce qu'il faut pointer que les élèves CEP et leur dire « vous avez besoin de tutorat au risque de les stigmatiser » ou dire, comme ils ont fait au début, « c'est ouvert à tout le monde et très souvent, c'est les meilleurs qui viennent pour être encore meilleurs dans le tutorat ». Donc, ça n'a pas été toujours très, très efficace pour les élèves. Mais on voit qu'au fur et à mesure, ils arrivent à rattraper et qu'après, au niveau master, comme les masters des Sciences Po sont très professionnalisants, c'est d'autres qualités qui sont récompensées.
Oui, c'est très lié au marché du travail.
Après, la question que je me suis posée et à laquelle je ne peux que partiellement répondre, c'est que deviennent ces élèves dans le marché de l'emploi. Et donc, Sciences Po, depuis quelques années, parce qu'au début, on n'avait aucune donnée, mais depuis quelques années, on a des données sur le fait qu'ils occupent des positions à peu près comparables, pas nécessairement exactement
les
mêmes secteurs.
Hein.
Il y a, par exemple, plus de ces élèves, notamment ceux issus de l'immigration, qui partent à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre qui vient de paraître, que je suis en train de lire, qui s'appelle « La France, tu l'aimes, je l'aime et je la quitte ». Voilà.
Et donc, Julien Talpin.
Voilà. Ils font partie totalement de ce modèle, de se dire « mais mon avenir n'est pas en France » et donc qui vont à l'étranger. Une partie qui veulent être plutôt auto-entrepreneurs parce qu'ils se disent très peu qui préparent l'ENA parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas plus élitiste, plus sélectif. Et donc, je n'ai interviewé que 2 élèves qui préparaient l'ENA. Et donc, effectivement, mais des positions à peu près comparables, mais quand même, quand on va de plus près, moi, ceux que j'ai interviewés, on voit que quand même le salaire d'entrée n'est pas tout à fait le même. Et puis la question, je pense, qui est plus importante et que Sciences Po n'a pas poursuivi et qu'on n'a pas les données statistiques pour le faire, c'est que deviennent-ils 5 ans après, 10 ans après? Parce que ce que montrent beaucoup de collègues, je pense à des travaux récents en Angleterre, c'est que la difficulté est moins de move-in que de move-up. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à grimper dans l'emploi, en sachant que ça nécessite beaucoup de capital social, beaucoup de capital économique aussi, parce que pour certaines positions, il faut avoir. Et donc, j'ai interviewé des élèves, ça fait 5 ans à peu près qu'ils étaient dans le marché de l'emploi, qui d'une part ne supportaient pas les contextes dans lesquels ils étaient, parce qu'ils disaient, tous mes collègues, ils partent au ski, tous les week-ends, ils font des barbecues dans les jardins de leur maison aux Yvelines, ou je sais pas quoi. Et moi, je ne peux pas du tout tenir ce rythme de vie. Donc, c'était un élève très, très ambitieux, qui avait obtenu un poste, qui avait suivi le master finance et stratégie, qui avait un poste de très bon niveau, mais qui disait, non, je vais partir, je pense, vers une entreprise plus moyenne, pas à Paris, parce que je pense que je ne pourrais pas grimper les échelons, etc. Et donc, ça, c'est une vraie question qui se pose par la suite, à laquelle je ne peux que partiellement répondre avec les 42 diplômés que j'ai interviewés.
Merci beaucoup, Agnès Van Zanten, pour cet échange.
Merci.
À la production, Régis Guyon, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cas d'école.